Bonjour à tous. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons laissé Martin Gray avec les Russes libérateurs des nazis pour tous ces Polonais comme lui qui ont réchappé des camps et des ghettos. Plongeons dans la suite de sa biographie, Au nom de tous les miens. Un livre qui m'a demandé plus de temps de lecture que d'habitude, en raison, surtout, de tous ces mots et noms polonais qu'il faut déchiffrer, plus que lire. Enfermé dans le ghetto de Varsovie, puis emmené au camp de la mort de Treblinka, Martin n'a eu de cesse de survivre aux bourreaux nazis et s'est retrouvé au milieu de résistants comme lui, qui s'organisaient pour fuir les Allemands. Quand arrivent enfin les Russes, ils sont pour eux les libérateurs. Naturellement, le groupe et Martin les suivent jusqu'à Berlin pour débusquer, arrêter et juger leurs tortionnaires. Mais bien vite, Martin se rend compte que peu importe le côté où l'on se trouve, lorsqu'on a le pouvoir, on se transforme en bête. Et il ne veut pas devenir comme ceux qui ont tué tous les siens. Il veut les faire payer, mais pas torturer ou utiliser ces Allemands qu'il déteste tant. Il veut rester un homme, un vrai. Alors il se rend dans la partie de Berlin que les Américains occupent et met tout en œuvre pour son départ, pour rejoindre sa grand-mère maternelle à New York, sa seule famille à ce jour. À force de persuasion, il embarque sur ce bateau synonyme de liberté et traverse l'Atlantique. Près de sa grand-mère, il découvre cette grande ville et commence à travailler en apprenant la langue. Il veut gagner des dollars pour construire sa forteresse, puis fonder sa famille, au nom de tous les siens, massacrés sur l'ancien continent. Vendeur à la sauvette, il fait du porte-à-porte, puis découvre les antiquités, une branche qui va l'enrichir à coup sûr. Il apprend, voyage, achète, revend et encaisse de nombreux dollars. Mais ne trouve pas celle qui lui permettra de se poser, d'oublier les corps morts qu'il a transportés dans les fosses de sable jaune. Alors, il s'épuise encore plus à la tâche. Mais sa grand-mère lui rappelle qu'elle est vieille et que s'il continue ainsi, jamais elle ne verra ses enfants et son bonheur. Pour Martin, il a le temps. Mais à l'arrivée de l'aéroport, après un long voyage, une hôtesse lui tend un papier, lui demandant de se rendre très vite chez sa grand-mère. Elle était sur son lit, déjà habillée, les mains croisées sur sa poitrine. Elle était sur son lit, mais ses lèvres ne bougeaient plus. Elles étaient serrées, minces, comme aspirées vers l'intérieur. Elle était maigre, si maigre, vêtue de ses vêtements de fête. « Oh, maman, maman, toujours le deuil. J'avais touché tant de morts, vu tant de corps. Oh, maman, toi aussi. » Je suis allée pleurer dans la cuisine. J'ai crié. Avec elle, tout était mort. J'étais mort aussi. « Oh, maman !» Elle était sur son lit et je ne pourrais plus rien lui donner, jamais. Je l'avais quittée, j'avais vendu, acheté, sauté d'avion en taxi. J'étais riche, j'avais vécu pour moi comme un sauvage. Je l'avais laissée, j'aurais dû rester près d'elle, vivre avec elle, pour elle. La voir, la prendre contre moi, si maigre, si frêle, une enfant. Je ne pouvais pas, je suis partie à la dérive. Je l'ai laissée. Adieu, maman. Adieu. Une éternité de souffrance, de joie, d'amour, de savoir, tout cela dilapidé d'un seul coup, dispersé dans la terre. Je ne m'habituerai jamais à la mort. Et la mort de maman rouvrait toutes les fosses. Elle était à nouveau la mort de tous les miens. Il m'entraînait. Je m'étais battue pour survivre, pour témoigner, pour venger les miens, pour continuer. Bâtir une forteresse, avoir des enfants. J'avais sauté par des fenêtres, dans des caves, je m'étais accroché sous un camion, je m'étais enfoncé dans la merde, j'avais tué, chassé les bêtes à visage d'homme, choisi le risque, changé 100 fois de vie. Et puis j'étais seule. J'avais toujours dit adieu. Adieu les miens. Adieu camarades aux cheveux roux. Adieu maman. J'étais là, comme un arbre rongé. L'écorce est belle et l'arbre est vide. J'étais malade de trop de solitude et de trop de malheur. Pourquoi enchaîner une femme à ma vie? Pourquoi donner la vie? Une vie que tout menaçait? Pourquoi construire une forteresse? Pour qui? Pour qui? Je n'avais pas le droit d'en finir avec la vie. Mais je n'avais pas le droit, avec ce gouffre en moi, de donner la vie. Je ne pouvais que durer, aller au jour le jour, comme ces fourmis qui recommencent sans fin leur chemin. Ce que je devais faire, je l'ai fait. J'ai survécu. Je me suis battue. Je vous ai vengé. J'ai retrouvé maman. Je l'ai aidé à vivre, mal, mais comme j'ai pu. J'ai entassé les pierres pour ma forteresse, j'étais prêt. Mais le malheur est en moi, le vide est autour de moi. Une forteresse, pour qui? Pourquoi? Et pour oublier, pour surmonter cette nouvelle perte, Martin se plonge encore plus dans le travail. Mais un jour, par hasard, il rencontre Dina. c'est elle. Elle est la vie qui lui manquait. Elle est la vie pour qui il s'est toujours battu. Ils savent tous les deux, ils savent qu'ensemble, ils vont construire la forteresse dont Martin a toujours rêvé. Faire des enfants et leur transmettre, témoigner de la cruauté dont les hommes sont capables. Ce château, ils le trouvent sur les hauteurs de Nice. Ils réparent cette grande maison en ruine au milieu de la forêt et au-dessus de la mer. Ils font leurs enfants, deux filles et deux garçons que Martin a mis au monde dans leur chambre. Dina a poussé la vie dans ses mains et au nom de tous les siens, il aime à un point indéfinissable ce qu'il a construit avec Dina. Mais un jour, au milieu de nombreux mois de sécheresse, un incendie menace sa maison. Le voilà de nouveau à devoir se battre, survivre, fuir, sauver les siens. Mais en vain. Le feu, le même qui avait emporté les siens à Treblinka et dans le ghetto, vient de nouveau de lui arracher ce qui lui était le plus cher. Je me suis terré des jours entiers au fond de mon malheur. J'étais à Treblinka, j'étais sur la place de Tri. Je me souvenais de tout. Ma mémoire avait éclaté sous la douleur en mille faits. Je me souviens de l'odeur des fosses, du bruit de l'excavatrice, du regard de l'officier aux yeux blancs. Je me souvenais de père, de Jules Eckfeld, les camarades, d'eux, mes fils, ma femme, mes filles. Je vivais leur rire, cette course vers la maison dans les prés quand les cartables volaient en l'air. J'avais connu la barbarie et le bonheur, la mort et la vie. Je savais dans ma chair, dans mes yeux, que tout ici est possible, que rien n'est jamais définitivement gagné, qu'un mur franchi, un autre s'élève, qu'un ghetto brisé, un autre se construit. Père dans le ghetto disait qu'un homme est celui qui va jusqu'au bout. Et je disais à mes enfants qu'un homme se juge à ce qu'il fait. Voilà ce que je voulais leur apprendre. J'avais renoncé au fusil, il me fallait donc vivre jusqu'au bout. À nouveau, je suis sortie de Treblinka. Je me suis jetée avec mon malheur à la face des gens de ce pays où j'avais trouvé la paix et qui m'avaient accueillie. Tout perdre ou tout gagner. J'ai recommencé un combat, ma guerre, pour les miens, au nom de tous les miens, pour que jamais je ne puisse me dire « Tu savais et tu n'as pas clamé ». Je m'étais évadée de Treblinka, j'avais survécu, j'avais construit ma forteresse. Mais toutes les forteresses sont fragiles, provisoires. Je marche encore. Je ne veux pas vivre pour moi. À quoi cela sert-il? Hier, j'ai vécu pour les miens, contre les bourreaux. Aujourd'hui, je vis encore pour les miens, pour eux, ma famille. Seul, je suis vide. J'agis. J'ai parlé. Les miens vivent, ma femme, mes enfants combattent. Qu'est-ce que vivre sinon agir pour les autres? Je veux encore dire, vivre jusqu'au bout et un jour, si vient le temps, donner à nouveau la vie pour rendre ma mort, la mort des miens, impossible. Pour que toujours, tant que dureront les hommes, il y ait l'un d'eux qui parle et qui témoigne au nom de tous les miens.
L'actu des bibliothèques.
Vous ne le saviez peut-être pas, mais les ateliers numériques de la médiathèque de Pontcharrat se poursuivent. Du débutant au plus aguerri, il y aura forcément un atelier qui vous intéressera. Pour découvrir l'informatique, apprendre le transfert ou le partage de photos, et jusqu'à bloquer les pubs ou gérer les cookies sur Internet, il vous suffira de contacter la médiathèque de Pontcharrat et de vous inscrire gratuitement à l'atelier qui vous plaira.